Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Élection 2023 en RDC. Les candidats présidents, les partis et regroupements politiques ainsi que la société civile conviés au cadre de concertation qu'organise la centrale électorale dès demain lundi. Vous entendrez à ce sujet Didi Manaralinga, premier vice-président de la CENI. L'école primaire Saint-Jérôme de Boutembo, destinée à l'éducation des enfants déplacés, ferme ses portes. Décision des autorités scolaires. En cause, des difficultés de fonctionnement et la baisse de la qualité de l'enseignement, explique le chef de la sous-division de l'EPST Boutembo 2. D'aucuns s'interrogent, quel sort pour ses élèves et leurs enseignants? Et puis, l'invité de ce matin, le professeur Séverin Mougangou, il nous parle du cadastre agricole qui vient d'être mis en place dans trois territoires du Sud Kivu, à savoir Idjoui, Kalé et Uvira. Madame, Messieurs, bonjour. La CENI organise du 13 au 15 novembre en cours des cadres de concertation pour des élections transparentes, inclusives et apaisées avec les candidats présidents, les partis et regroupements politiques ainsi que la société civile. Suivant les détails avec le premier vice-président de la CENI, Didier Manaralinga, dans ses propos recueillis par Alain Irung.
À quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et des contacts permanents avec les parties prenantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats présidents de la République, les partis et regroupements politiques et candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Le cadre de concertation CENI candidat président de la République se tiendra le lundi 13 novembre 2023 au fleuve Congo Hôtel, tandis que le cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques, candidats indépendants, ainsi que celui avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les invitations sont à retirer au siège de la CENI dès ce samedi 11 novembre 2023, à partir de 9h. Il est à noter que chaque candidat président de la République qui le désire devra se faire accompagner d'un seul collaborateur.
Dans l'actualité aussi, nous apprenons que la situation politique est confuse dans la province du Nord-Ubangi, ce depuis la déchéance du gouverneur Malo Mobutu et de tout son gouvernement provincial. 10 députés sur 18 ont voté pour la motion de censure initiée par le député provincial Max Dembide, élu de Yakoma. Mais cela en l'absence du gouverneur qui n'a pas pu présenter ses moyens de défense. Parmi les 17 griefs que ce dernier formule contre le gouverneur, on peut notamment citer le détournement des fonds alloués à la participation à la COP27 en Égypte et à l'investissement du gouvernement central dans la province ainsi que l'incompétence. Paul Richard Malengela nous en dit plus.
Parmi les 17 griefs, le tâtonnement dans la gestion des affaires de la province, ainsi que l'absentéisme et les voyages intempestifs sans retombées concrètes pour la province. Jusque-là, aucune réaction du gouverneur de province qui était absent pour sa défense. Par ailleurs, lors de la plénière de vendredi, l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi a également rejeté et la reddition des comptes de 2023 et le projet de budget provincial de 2024, budget fixé à 302 milliards de francs congolais, mais jugé irréaliste. Au regard de la succession des faits et à environ 5 mois des élections, des observateurs redoutent le chaos politique au Nord-Ubangi qui va évoluer désormais sans gouvernement légitime ni budget provincial. Mbondaka, Porsche Malengela, Radio Okapi.
Processus électoral en cours, les femmes candidates du Sud Kivu s'engagent à se transformer en femmes élues au scrutin de décembre prochain. Engagement pris vendredi à Bukavu à l'issue d'un atelier d'échange organisé à leur intention par la section genre de la MONUSCO Bukavu. Près de 50 femmes candidates à tous les niveaux ont pris part à cette séance au centre Olamé de l'archidiocèse de Bukavu. Reportage de Emmanuel Elameji Wakabedi.
En appuyant les femmes candidates du Sud Kivu, la MONUSCO veut améliorer leurs stratégies électorales pour leur meilleure visibilité. Cela en vue d'une amélioration de la représentation des femmes aux instances politiques. John Biarungi de la section genre de la MONUSCO.
Il n'y a pas de vraie démocratie sans la participation de la femme. Actuellement, les femmes ne représentent que 13% des femmes à l'Assemblée nationale. Au niveau de la province de Sud, c'est à peine 8%. Quant aux élections qui pointent à l'horizon, la représentation des femmes reste sera aussi faible.
Le succès de la transformation des femmes candidates en femmes élues passe par la motivation, l'opportunité et la capacité. Une candidate à la municipalité de Kadutu s'en réjouit.
Pour nous, on ne savait pas comment planifier, comment s'organiser, comment aussi amener les bases à nous porter comme leurs candidates. Et c'est pour cela qu'on vient de nos capacités. Espérons que nous allons gagner les élections grâce à ces stratégies qui sont riches.
L'histoire des élections en RDC renseigne qu'aucune femme n'a jamais été élue députée nationale dans la ville de Bukavu. Avec ces nouvelles stratégies, les candidates de la ville de Bukavu se veulent rassurantes. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Par ailleurs, former les unités d'intervention de la police nationale congolaise en Ituri sur la sécurisation du processus électoral, c'est l'objet de la mission vendredi à Bunia d'une forte délégation de Congita, un programme d'appui à la réforme de la police en RDC, programme mis en place il y a 18 mois. Les membres de cette équipe ont exprimé au gouverneur de province leur souhait de voir les principes fondamentaux de la liberté des manifestations être respectés pendant cette période électorale, comme le garantit la constitution de la RDC. Martial Kizabia Mungu.
D'après Jean de l'Angleterre qui conduit cette forte délégation, cet appui à la police nationale congolaise consistera à mettre en place une unité spéciale capable d'intervenir avec professionnalisme à tout moment lorsque l'ordre public est perturbé par des soulèvements populaires en cette période électorale dans le respect des instruments internationaux, ce qui justifiera selon lui la dotation de la police et des équipements individuels pour faire face à toute éventualité après la publication des résultats des élections générales du 20 décembre prochain. Jean de l'Angleterre.
Des équipements de protection individuelle au niveau des personnels pour leur permettre d'être en meilleures conditions pour pouvoir travailler un petit peu et préparer un petit peu toutes ces activités. On a parlé déjà d'activités passées puisque nous avons déjà travaillé sur un appui aux OPJ. Nous avons également des missions qui sont en cours sur les infrastructures pour améliorer un petit peu l'implantation des commissariats et des sous-commissariats.
Cette série des formations de la police débutera lundi jusqu'à vendredi prochain. Bunia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, créée en 2019, l'école primaire Saint-Jérôme de Butembo était destinée à l'éducation des enfants déplacés venus des différentes localités du territoire de Beni et même de la province de l'Ituri, fuyant les massacres des EDF. Cette école avait atteint un effectif de plus de 200 élèves, tous déplacés, sans compter les enseignants et le personnel administratif. Au début de cette année scolaire, suite à des difficultés de fonctionnement et de la baisse de la qualité de l'enseignement, les autorités scolaires décident de fermer cette école. Quel est le sort de ces élèves et de leurs enseignants? Baudouin Mouindo Nguka, chef de la sous-division de l'EPST Butembo 2, explique au micro de Sadiq Aboubakar.
Les inspecteurs, dans leur itinérance, ils ont constaté que cette école a de sérieux problèmes de manuels, problèmes de non-prise en charge des enseignants, aux difficultés de fonctionnement. Alors, suite à ces différents rapports des inspecteurs, on a jugé bon que vraiment cette école puisse fermer pour ne pas gâcher l'avenir des enfants. C'est ainsi que les enfants, nous les avons orientés vers 3-4 différentes écoles, primaires publiques. Mais dans le suivi de ces enfants, ils s'adaptent bien. Les enfants n'ont pas assez de problèmes. Déjà même à la fin de la première période, les enfants se sont bien débrouillés. Les enfants sont presque à grande partie enfêlés, vulnérables. Il ne fallait pas, à part ce malheur qui leur est arrivé par la nature, qu'on puisse encore ajouter d'autres problèmes, des sous-qualifications, des enseignements de mauvaise qualité. Les enseignants ont été mis à la disposition de la coordination, qui nous a promis que dès qu'il y aura des places vacantes dans les unes des écoles catholiques, on pourra faire appel à ces enseignants.
Rendons-nous dans la province de la Tchopo. Les déplacés des événements récents liés au conflit de quelques individus issus des communautés Mbole, Lengola, Kumu et consorts vivent dans des conditions difficiles. Ils sont démunis de tout pour avoir été forcés à abandonner leur domicile. C'est pourquoi l'archevêque de Kisangani, Marcel Utembitapa, a lancé un appel à la solidarité aussi bien locale, nationale qu'internationale en vue de leur assistance. La collecte des fonds, vivre et non vivre, est prévue à partir de ce dimanche 12 novembre jusqu'au retour des déplacés dans leur village. Le prélat l'a annoncé vendredi au cours d'un point de presse à Kisangani, le compte rendu de Jacques Moukonkole.
Les déplacés installés à la paroisse Saint-Gabriel viennent de 17 villages. Ils arrivent au fur et à mesure qu'ils se sentent en insécurité dans leur milieu. Jusqu'à vendredi matin, leur nombre était d'environ 1700 personnes, dont plus ou moins 900 enfants mineurs. Le père Gabriel Mbeya, curé de cette paroisse, parle des besoins urgents qui se font sentir dans ce site.
Nous avons besoin des tentes pour pouvoir les loger dignement comme humains. Et aussi, nous avons besoin de multiplier les installations sanitaires pour prévenir d'autres maladies. Nous avons besoin de vivre. Nous avons aussi besoin d'argent en nature, puisqu'il y a d'autres choses qu'on doit acheter.
Au regard de l'ampleur des difficultés que connaissent ces déplacés, l'archevêque de Kisangani en appelle à plus de solidarité pour faire face à ce grand défi. Monseigneur Marcel Outembitapa.
J'ordonne que soient organisées dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Kisangani des collectes de fonds, de vivres et non-vivres pour matérialiser notre charité. Et ce, à partir de ce dimanche 12 novembre 2023, ne devrait laisser personne indifférent.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Monseigneur l'archevêque précise aussi que tous les biens récoltés seront mis à la disposition de ces déplacés et supervisés par la Caritas en collaboration avec les paroisses Saint-Gabriel et Saint-Pierre. Il n'y a plus des groupes armés actifs sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Propos tenu jeudi à Kalemie par le commandant des opérations militaires Usalama de la 22e brigade de réaction rapide, le général Dunia Kashindi évoque néanmoins quelques problèmes qui se posent encore dans la province. C'est notamment le banditisme sur l'axe Bendera ou la prise en charge d'ex-miliciens Toa qui se sont rendus dernièrement au village Mulange pose problème. On écoute le général Dunia Kashindi dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
La situation que nous vivons aujourd'hui à Kalemie, dans la province de Tanganyika, elle est satisfaisante. Je pense que je le dis sans peur d'être contredit. Sauf qu'il y a quelques cas isolés de banditisme. Le problème de Mulange se sont dérendus. D'abord, c'est un fait positif qui a accouché une petite souris d'une manière un peu négative. Les rendus de Mulange devraient être pris en charge par la structure PDDRCS. Donc, le commandant suprême, il est déterminé à ce que tous les groupes armés rendent leurs armes et d'une manière pacifique. C'est la dernière chance que le commandant suprême avait donnée à tous les groupes et nous avons travaillé une année durant et aujourd'hui, sur toute l'étendue de la province du Tanganyika, il n'y a plus de groupes armés actifs. La situation de la route Kalemie-Bendera, c'est un cas isolé de bandits, de kidnappeurs, et dont le commandement des opérations met tout en œuvre pour décourager ces gens.
Direction le Kasaï-Oriental. Certains agents et cadres de la fonction publique déplorent la récupération de la totalité des deux premiers mois des salaires exigés par leur chef hiérarchique après la mécanisation. Cet acte est défini comme la compensation d'efforts fournis auprès de la fonction publique pour faire mécaniser et payer les collaborateurs. La gouverneure de province intérimaire condamne cet acte et le qualifie d'escroquerie. Explication Esther Dalafina.
Cette pratique s'est bien installée dans les différentes divisions provinciales de la fonction publique au Kasaï-Oriental. Plusieurs agents dénoncent la récupération de la totalité des deux premiers mois de salaire, une conditionnalité pour être déclaré et aligné sur la liste des agents au sein d'une division provinciale de l'administration publique. Quelques agents affirment que ceux qui boudent de cette pratique voient leur nom débarquer de la liste au détriment des proches, des familles ou encore des amis et connaissances non concernés par cette opération. Lors du récent contrôle biométrique, quelques agents et cadres de la fonction publique reconnaissent avoir été empêchés d'être recensés suite à cette pratique. Contactés, quelques chefs des divisions provinciales rejettent ces allégations. La gouverneure de province intérimaire qualifie cette pratique d'escroquerie. Elle promet de suivre de près la paye du mois d'octobre dernier. Julie Kalenga promet de révoquer et traduire en justice tout responsable des divisions qui sera surpris dans ses antivaleurs. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Kenya, déjà accusé d'avoir ordonné à ses fidèles de mourir de faim pour rencontrer Jésus. Paul Mackenzie est visé par une nouvelle affaire. Le prédicateur kényan a été reconnu vendredi coupable d'avoir exploité un studio et distribué des films sans licence par l'intermédiaire de sa chaîne Times Television. Il sera condamné le 1er décembre et pourrait encourir jusqu'à 5 ans de prison. Le prédicateur est en garde à vue depuis plus de 6 mois, depuis son arrestation en avril, à la suite de la découverte de centaines de corps dans des fosses communes dans une zone forestière de sa propriété de 800 hectares dans le comté côtier de Kilifi.
L'invité.
Le cadastre agricole vient d'être mis en place dans 3 territoires de la province du Sud Kivu, à savoir Idjwi, Kale et Uvira. Les agents sont largués sur le terrain après une formation accélérée de 4 jours à Bukavu. Quels sont les avantages que le cadastre agricole peut offrir aux populations paysannes? Le professeur Séverin Mugangu déballe tous les détours sur le cadastre agricole dans cet entretien avec Jean Kassami.
Professeur Séverin Mugangu, bonjour.
J'aimerais savoir quel rôle les agents du cadastre agricole qui viennent d'être formés vont-ils pouvoir jouer une fois sur terrain.
Une première chose qu'ils vont devoir faire, c'est de constituer le répertoire des concessions et de mettre à jour les informations sur ces différentes concessions. Les données à mettre à jour, c'est notamment par rapport aux cessions, au morcellement dont les concessions ont fait l'objet, c'est d'évaluer le coefficient d'occupation du sol exigé par la loi, donc le nombre d'arbustes, par exemple, qu'on doit avoir à l'hectare lorsqu'il s'agit d'une plantation de café ou de cacao. Et une fois qu'ils auront fait cette évaluation, ils vont préparer techniquement la possibilité de faire louer par le concessionnaire les parties non occupées de la concession, de façon à augmenter, à améliorer l'accès à la terre pour la petite paysannerie.
Alors, professeur, quand sera lancé le cadastre agricole officiellement parlant après la formation des agents?
Le gouverneur a déjà lancé le cadastre. Cet atelier visait à partager entre les participants une information sur la mission, les activités et le mode opératoire du cadastre. Il s'agissait également de créer déjà un climat de confiance entre ce nouveau service et le cadastre national qui s'occupait de tous les aspects d'utilisation des terres.
C'est-à-dire qu'une fois sortis d'ici, de retour dans leur milieu, immédiatement, ils démarrent le travail.
Immédiatement, le projet TRID va leur donner des fournitures, des équipements. Et à partir du moment où ils ont les matériaux, les fournitures nécessaires pour démarrer, les cadastres vont se donner maintenant un agenda de travail, une feuille de route. Et nous avons recruté un consultant qui va appuyer le cadastre agricole à finaliser son plan de travail annuel et la feuille de route.
Et l'outil de travail pour cette catégorie d'agents, c'est quoi?
L'outil de travail, c'est d'abord l'arrêté du gouverneur. Il y a ensuite la loi portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture, mais il y a également tous les supports pédagogiques qui ont été distribués aux participants au cours de cet atelier. Le maniement des instruments techniques, des logiciels informatiques, etc., ils doivent encore se familiariser avec tout cela. Mais le vrai travail, c'est le travail qu'ils feront sur le terrain, notamment le lourd travail d'évaluation des concessions.
Merci beaucoup, professeur Séverin Mugangu.
Notre invité répondait aux questions de Jean Kassami. Par ici prend fin ce journal, supervisé par Alain Rungmushinj, Dieudonné Nyangassa à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi. Place à l'actualité sportive avec Enoch Matondo Mvuezolo. Bonjour.
Bonjour Belinda Boussouma. Bonjour également à tous les amis sportifs.